Bien, mesdames et messieurs, merci d'être présents ce soir pour cette conférence. Je pense que nous allons commencer parce qu'il ne faut pas qu'on prenne trop de retard, même si on a un petit peu de temps et si on veut pouvoir avoir un débat riche, et c'est quand même l'objet aussi de ce genre de manifestation. Donc je vais, sans plus attendre, passer la parole à madame Sylvette Rougier, qui est la puissance invitante, hein, pour vous présenter, j'imagine, le collectif à l'origine de cette conférence.
Tout à fait. Ben, bon, merci, monsieur le doyen, et bonsoir à vous. Quelques petits mots pour introduire effectivement cette conférence sur les réfugiés palestiniens. Et tout d'abord, au nom du collectif Poitiers-Palestine 86, collectif Palestine 86, oui, je voudrais remercier l'Espace Mendès France qui nous accueille ici ce soir, le laboratoire Migrinter et la faculté de droit de Poitiers qui ont soutenu notre initiative et particulièrement monsieur le doyen Lagrange qui a accepté de modérer ce débat. Et bien sûr madame Meriem Mansour qui a accepté notre invitation de donner cette conférence. Cette conférence est proposée par le collectif Palestine 86, un collectif qui s'est créé en juillet 2014 sous l'impulsion du comité Poitevin Palestine pour organiser la protestation contre la guerre menée par Israël contre la bande de Gaza. C'est un collectif qui est constitué d'associations attachées à la défense du droit des peuples à l'autodétermination, à la non-ingérence dans les affaires intérieures, au respect du droit international et des conventions internationales comme moyen de règlement des conflits. Ce collectif revendique la fin du blocus de Gaza, la fin de l'occupation et le démantèlement de toutes les colonies israéliennes illégales en droit, la création d'un État palestinien indépendant, la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens, conformément à la résolution 194 de l'Assemblée générale de l'ONU du 11 septembre 1948. Si nous avons choisi de parler des réfugiés palestiniens dans cette conférence, c'est que la question des réfugiés demeure la question fondamentale du conflit Israël-Palestine. Dépossession, déni, démolition sont les maîtres mots de la politique sioniste, qui jour après jour absorbe plus de terres palestiniennes et tente de faire disparaître jusqu'à l'existence même des Palestiniens. Nous avons intégré cette conférence dans la célébration de la Journée de la Terre palestinienne, journée qui commémore la répression violente par l'armée israélienne des Palestiniens devenus des Arabes d'Israël en 1948, en grève contre la confiscation de leurs terres le 30 mars 1976. Cette répression s'est soldée par 6 Palestiniens tués, plus d'une centaine blessés, plus de 300 emprisonnés, dont certains le sont toujours aujourd'hui. Si nous commémorons cette journée de la Terre, c'est parce qu'elle symbolise l'unité des Palestiniens, qu'ils vivent en territoire occupé, Gaza, Cisjordanie, Jérusalem, qu'ils aient été expulsés en 48 ou en 67, et qu'ils soient réfugiés dans des camps en Palestine ou hors de Palestine, ou qu'ils soient exilés. Mais c'est aussi pour rappeler que nous n'avons pas oublié le massacre à grande échelle commis par Israël contre la population de Gaza cet été, troisième opération de ce genre en 6 ans, que cette population continue à souffrir des conséquences de cette barbarie. Vous avez quelques exemples qui sont sur l'affiche. Population qui tente de survivre dans le froid d'un hiver rigoureux, dans des habitats de fortune, parfois de simples tentes, soumises aux coupures de fioul et d'électricité, privées d'eau et de médicaments. Tout cela au milieu de tonnes de gravats et des canalisations éventrées. Nous n'avons pas oublié les promesses de dons pour la reconstruction, restées lettres mortes, obligeant l'Office de secours aux réfugiés, l'UNRWA, à faire des coupes sombres dans ses programmes, déjà étranglés par 7 années de blocus. Nous n'avons pas oublié non plus le rôle de l'Égypte, qui joue si bien le supplétif israélien en édifiant un mur le long de sa frontière avec la bande de Gaza, terminant ainsi l'encerclement de la population gazaouie dans ses 200 km² de prison à ciel ouvert. La crispation des débats sur le thème de choc des civilisations, déjà entamé avant les attentats parisiens de janvier, a pris depuis lors une nouvelle ampleur dans notre pays. La question palestinienne est en train de devenir un sujet tabou, dont on ne peut parler qu'en prenant un luxe de précaution. Pourtant, si on reste matérialiste et qu'on s'en tienne aux faits, cette question est relativement simple et s'inscrit dans l'histoire des puissances occidentales, dans l'histoire coloniale des puissances occidentales, à savoir la spoliation d'un peuple de sa terre. Pour parler de ce sujet sensible, nous avons fait appel à vous, Sandrine Mansour-Merien. Vous êtes docteur en histoire contemporaine du monde arabe et membre du Centre de recherche en histoire internationale et atlantique de l'Université de Nantes. Vous avez consacré, pour ce que j'ai pu lire, l'essentiel de vos travaux de recherche à l'histoire de la Palestine et des réfugiés palestiniens. En novembre 2013, vous avez participé à un colloque au Sénat sur les représentations du conflit israélo-palestinien dans les manuels scolaires. Et vous avez analysé les manuels de l'année 2012, enfin sept manuels de l'année 2012 des classes terminales, étude qui a été publiée dans les cahiers pédagogiques et dans un recueil aux éditions Sileps. En 2013, vous publiez également l'histoire occultée des Palestiniens 1947-53 aux éditions Priva, livre qui, je cite l'éditeur, replace la catastrophe ou Nakba, c'est-à-dire le début de l'exode forcé des Palestiniens en mai 48, dans une perspective historique nourrie d'archives nouvellement ouvertes et de textes d'historiens, tant palestiniens qu'israéliens. Les deux ouvrages sont en vente ici pour ceux qui souhaiteraient les acquérir. Avant de vous laisser la parole, Madame Mansour-Merien, je voudrais ajouter que pour nous aider à couvrir les frais, nous allons faire circuler une enveloppe et nous vous remercions d'avance de ce que vous pourrez donner. Mais bien sûr, l'entrée était libre et cela n'a rien d'obligatoire. Je vous remercie et je vous passe la parole.
Bonjour et merci Sylvette et M. Lagrange de votre accueil, professeur Lagrange. Je suis contente d'être à Poitiers, ce que je disais. Nous sommes très peu de spécialistes de l'histoire de la Palestine en France et donc c'est vrai que c'est toujours un grand plaisir de venir partager en fait ce pan d'histoire qui est fondamental pour comprendre l'histoire géopolitique du monde d'ailleurs. Parce qu'il faut rappeler quand même que la question palestinienne, c'est le premier dossier que l'ONU a eu à traiter en 1945. Et malheureusement, ce dossier est encore non traité, non terminé aujourd'hui, donc sur le tableau de l'ONU. Et c'est aussi la première communauté de réfugiés dans le monde, selon les statistiques onusiennes. Donc c'est évidemment une question fondamentale. Aussi, d'un point de vue du droit, je ne suis pas juriste du tout, mais mon collègue pourra bien sûr compléter et rajouter des éléments importants sur la question. C'est une question fondamentale dans le droit international, puisqu'il a été question d'un partage d'un territoire que l'on a mis dans un cadre qui est celui de l'Organisation des Nations Unies et au détriment d'un cadre juridique plus global, qui visait à l'autodétermination des peuples. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, les Palestiniens n'ont pas eu accès à cette autodétermination et tout le contexte international fait qu'on l'en empêche. On ne peut pas comprendre cette question et malheureusement les médias là-dedans cessent de faire un travail analytique de fond puisqu'on fait du zapping en permanence avec aussi l'avantage c'est que les événements mondiaux comme les attentats de 2001 aux États-Unis et les différents attentats comme celui qu'on a connu en France il y a quelques semaines ne font que rajouter de l'huile sur le feu au sens ramener des éléments extérieurs pour empêcher qu'une réalité historique se dise d'une part et d'autre part pour empêcher aussi de dire une chose vraie qui est savoir la résolution du conflit israélo-palestinien résoudra énormément de choses dans le monde et permettra un apaisement général, c'est une évidence. Donc c'est toujours très important de revenir sur l'origine, c'est-à-dire pourquoi cette population est à majorité réfugiée aujourd'hui, pourquoi elle continue de l'être et comment elle l'est devenue et pourquoi on en est toujours à un point de blocage jusqu'à ce jour. Alors très souvent, dans les médias, ce qu'on retrouve, c'est que la question israélo-palestinienne démarre avec la création de l'État d'Israël en 1948 et avec notamment toute la conscience européenne par rapport à sa responsabilité dans le génocide des Juifs, qui est certes évidente, mais il faut remonter bien plus loin pour arriver à l'origine du projet sioniste, puisqu'il s'agissait en fait au départ d'un projet politique élaboré par une minorité juive européenne. Un projet qui s'est inscrit tout à fait dans l'ère de l'époque, c'est-à-dire on était dans les projets nationaux, coloniaux de l'époque, et avec la montée des nationalismes en Europe, on arrive à un moment donné où il est important de redéfinir à la fois les projets nationaux au vu des territoires, mais également au vu d'une classification des populations. Et dans ce contexte-là, la fin du 19e siècle, vous avez les premiers pogroms qui ont lieu en Europe. Et il y a donc le procès Herzl de Théodore Herzl, ce fameux journaliste le procès Dreyfus et ce journaliste Théodore Herzl qui arrive et qui témoigne au procès Dreyfus et qui avec une certaine aspiration et voilà, un certain imaginaire, une utopie qu'il va vouloir réaliser, imagine qu'il est possible de créer en fait un nationalisme juif en disant que finalement les populations juives sont en danger en Europe et que donc il possible d'élaborer un projet. C'est comme ça que naît le mouvement sioniste. Le mouvement sioniste s'élabore au départ sur une base laïque. Ce sont d'abord des laïcs qui le pensent. Ils le pensent dans un contexte général. On n'est pas du tout sur la question palestinienne. Au départ, ils veulent élaborer un projet national sur un territoire qu'ils pourraient s'accaparer dans le monde. Donc il y a deux pays qui sont évoqués à l'époque, notamment, enfin il y en a plusieurs, mais sur lesquels des projets ont été faits de manière précise. L'Ouganda d'abord et l'Argentine ensuite. En sachant, et ça c'est important de le noter dès le départ, parce que ce qui est très intéressant dans l'histoire israélo-palestinienne, mais l'histoire palestinienne au départ, c'est que tout est inscrit dans les premières années, c'est-à-dire que tout est élaboré. Il y a vraiment une continuité historique très clairvoyante et très claire qui se met en place jusqu'à aujourd'hui et qui n'a pas dérogé finalement à son fil directeur. Pour entreprendre ces projets-là, les sionistes envoient des spécialistes sur le terrain. Donc ils ont envoyé des spécialistes en Argentine, ils ont envoyé des spécialistes en Ouganda, ils étudient le terrain, ils étudient l'économie, ils étudient l'agriculture, la faisabilité aussi d'un point de vue de l'eau. Toutes ces questions sont déjà posées à la base au départ avec l'intention de s'installer. Le hic, c'est qu'à l'époque, et ça c'est inscrit dans les archives et c'est très drôle aussi à voir, c'est qu'en réalité, la majorité des Juifs se sentent d'abord de la nationalité du pays dans lequel ils vivent. Donc les Allemands, Allemands, les Polonais, les Roumains, Roumains, avant de se sentir Juifs. Et d'ailleurs, le mouvement sioniste constate qu'il y a même une certaine désaffection d'un point de vue de la religion. Il y a eu une analyse très intéressante d'un des leaders sionistes qui dit... le jour de Shabbat, maintenant, il y en a qui travaillent, il y en a qui également se marient à des non-juifs, enfin vraiment, tout se perd. Et donc, il y a aussi cette question-là, et il y a aussi un mouvement de gauche très fort, le Bund est assez puissant. Donc, le mouvement sioniste, en fait, au départ, ne fait pas les émules qu'il pensait, que Théodore Herzl pensait qu'il ferait. C'est là qu'arrive l'idée de penser à la Palestine. Et là, c'est l'idée de reprendre en fait le texte biblique, donc l'Ancien Testament et donc le discours religieux pour attirer du monde en Palestine. C'était un discours qui existait au milieu du XIXe siècle et qui avait été notamment porté par des Britanniques et notamment des chrétiens qui avaient fait un retour à la Terre Sainte au milieu du XIXe siècle. Et un retour qui est très intéressant puisqu'on le retrouve après dans l'idéologie sioniste, c'est-à-dire qu'au lieu d'arriver sur place et d'analyser la réalité du terrain et de voir quelle était la vraie vie en Palestine, en fait, ils arrivaient avec le texte religieux dans les mains et on essayait de s'imaginer voilà, comment c'était, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'image qui est posée sur le terrain au lieu de voir une réalité. Donc c'est vraiment dans ce schéma-là qu'ils s'inscrivent et ils décident donc de proposer la Palestine comme lieu. Et pour ça, ils s'adressent aux deux grandes puissances de l'époque, qui étaient la France et l'Angleterre, à un moment donné très important, puisqu'on est à la fin du 19e, au début du 20e siècle, l'Empire ottoman est en pleine déliquescence. Et donc les deux grandes puissances sont en train de déjà penser au découpage pour récupérer ce territoire. Se le récupérer sous deux formes, et c'est là où aussi on a une continuité qui malheureusement perdure, c'est la question coloniale, c'est-à-dire que c'est un projet d'abord capitaliste, donc on va là-bas pour récupérer des ressources dont on connaît l'existence. Et les sionistes s'inscrivent tout à fait là-dedans, parce que dans leurs études sur les différents pays où ils envisagent de s'installer, et la Palestine sera la même chose, ils sont très la question des ressources est tout de suite posée, et on veut savoir quelles sont les ressources qu'on va pouvoir exploiter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la question territoriale, donc des zones d'influence sur lesquelles on va pouvoir se baser avec donc l'idée d'un découpage de frontières. C'est important de le redire, le Moyen-Orient part d'un espace qui n'avait pas de frontières. Et je le redis souvent parce qu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre, et notamment le conflit qui se passe aujourd'hui en Syrie montre bien à quel point cet oubli, cette occultation manque après nous évite justement d'avoir une analyse claire. Les Palestiniens, les Syriens, les Libanais, tout l'ensemble du Moyen-Orient était sur un territoire qui dépendait de l'Empire ottoman, qui était certes une occupation turque, mais qui était d'abord une occupation administrative. Mais par contre, on était sur un territoire sans frontières. Il y avait donc, c'était un carrefour, le Moyen-Orient était un carrefour de commercial, un carrefour de civilisation, un carrefour d'échange, mais aussi un grand espace de circulation. Et ça, c'est très important. Et l'arrivée de grandes puissances avec les mandats qui vont être mis en place sur le lieu, c'est aussi l'arrivée de l'enfermement. Et ça, c'est une donnée importante parce qu'il y a donc un enfermement géographique et dans le cas de la Palestine, qui va se doubler d'un enfermement de population puisqu'on leur impose une population européenne. On va tenter donc de leur imposer ce projet sur leur territoire et sur leur population. Et donc le mouvement sioniste arrive avec ce projet-là, obtient l'aval des Britanniques, non pas parce que les Britanniques trouvaient que le projet était intéressant, mais parce que tout simplement, on est vraiment dans une ère antisémite en Europe, et c'est une manière de se débarrasser d'un nationalisme de trop. Et là, c'était vraiment une aubaine pour les Européens de se débarrasser des Juifs, en quelque sorte, de cette manière-là. Donc les Britanniques vont promettre la création d'un foyer national juif aux sionistes, tout en promettant oralement, et c'est tout le paradoxe, et au niveau juridique, c'est la question centrale, elle est posée là, puisque dans les termes même du mandat, qui est écrit en 1922, tous les mandats font mention de la future indépendance des États qui sont constitués nouvellement, je pense au Liban, je pense à la Syrie, je pense à l'Irak, sauf sur un seul cas, le cas de la Palestine, puisque dans le cas du mandat sur la Palestine, il est fait mention donc du foyer, de la possibilité de créer ce foyer national juif, ce home national juif en Palestine, bien évidemment avec la clause en dessous qui est dite, qui est sans que ce soit fait sans préjudice pour la population locale. Mais on ne parle pas de l'autodétermination et de l'indépendance future des Palestiniens, alors que ça avait été fait, bien sûr, de manière orale auprès des Palestiniens. Donc on a déjà la première contradiction majeure faite par les Britanniques à ce moment-là. Les Palestiniens sont tout de suite au fait de ce qui se passe. Très, très rapidement, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont très peu connues, c'est que les Palestiniens, dès le début, interviennent auprès des puissances. Ils interviennent à la conférence de la paix en 1919. Ils viennent voir les chancelleries européennes. Ils écrivent aux différents consuls en leur disant, écoutez, il y a un problème. On nous a promis l'indépendance. Vous allez mettre en place ce qu'on a appelé en France les missions de civilisation pour donner ces indépendances à ces États nouvellement constitués. Et en même temps, on voit apparaître quelque chose sur notre territoire qui, certes, était petit au départ, mais il n'en demeure pas moins que les Palestiniens sont au courant de cette vérité. Et il y a un premier courrier dont on a la trace, puisqu'en 1898, le maire de Jérusalem, donc de la famille Khaldi, écrit au sultan ottoman en lui disant, mais qu'est-ce que c'est, de quoi s'agit-il? Nous avons entendu parler d'un projet sioniste sur la Palestine, nous sommes très inquiets. Et Herzl va répondre, parce que donc le sultan interpelle Herzl, et Herzl répond au sultan, en réalité il répond au maire de Jérusalem, mais via le sultan, en lui disant, ne vous inquiétez pas, il s'agit d'un projet de collaboration, nous venons collaborer, apporter les nouvelles techniques européennes, on est donc au lendemain de la grande industrialisation européenne, et il ne s'agit en aucun cas d'autre chose, nous apporterons donc le savoir-faire et des financements, etc. Donc vous voyez que les Palestiniens sont conscients, ils commencent déjà d'ailleurs à se rendre compte que finalement leur discours n'est pas entendu, mais c'est tout à fait logique, on est dans un esprit colonial pour les Occidentaux et notamment pour les Français, les Britanniques. Le monde arabe est à peine civilisé, et un peu barbare, et moi j'ai retrouvé des rapports dans les archives qui sont affligeants, puisque on considère les Arabes comme des gens sous-développés, et les Palestiniens particulièrement sous-développés, incapables de penser démocratie, de penser à une pensée politique réellement. Donc ils ne sont pas entendus, et les Palestiniens le voient bien, le vivent sur place, et en même temps qu'ils voient arriver les premières colonies sur leur territoire. Donc ils vont faire des manifestations. Vous allez voir que là-dessus, on n'a pas beaucoup évolué non plus. Il y a donc des manifestations où il y a beaucoup de monde. Il y a donc des rassemblements qui constituent des milliers de personnes dans les principales villes palestiniennes. Il y a un comité islamo-chrétien qui est créé en 1917 parce que la question n'est pas religieuse, et ça c'est clair dès le début, et les Palestiniens se rendent compte que l'objectif c'est d'éliminer les Palestiniens musulmans et chrétiens au profit d'une population exclusivement juive, donc la collaboration elle n'est absolument pas réelle sur le terrain. Et il y a aussi des lettres de protestation. Tout à l'heure, je vais vous en montrer quelques exemples qui sont envoyés aux différents consuls et qui sont très clairs et qui disent déjà les choses à l'époque. Il y a aussi les campagnes de boycott. Vous voyez, on n'a pas progressé. Elle démarre déjà à l'époque, puisqu'en fait, les Palestiniens se rendent compte qu'il y a, quand il y a une entreprise qui est soit rachetée par des Juifs, ça a été le cas des moulins de Jaffa pour la farine, ça avait été racheté par les moulins de Paris, mais en réalité géré complètement par des Juifs. Et alors que je précise, je dis bien Juifs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Israéliens, et ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est comme ça que ça se disait, on disait les religions. C'est pour ça qu'on parlait des pincettes à prendre. Il faut recontextualiser les choses. Ça n'était pas dans une idée antisémite, mais bien parce qu'il y avait une définition comme ça par les Juifs eux-mêmes. Quand il y avait une boutique qui était ouverte ou une entreprise qui était ouverte, systématiquement, par les Juifs, le personnel non-juif, donc chrétien et musulman, était éliminé ou pas embauché. Donc il y a des campagnes de boycott qui sont lancées par ce comité islamo-chrétien qui visait à ne plus utiliser la farine. À un moment donné, il y avait tout le projet électrique, puisque c'est une entreprise dirigée par des sionistes et notamment qui a voulu s'immiscer comme ça dans le mandat britannique de manière à pouvoir avoir un impact aussi sur les décisions du mandat. Donc il lance le boycott sur l'électricité à un moment donné ponctuellement. Donc vous voyez, on n'a pas évolué de ce point de vue-là. Il faut savoir que le mouvement sioniste n'avait pas comme objectif que la Palestine. Et dans un rapport de 1917, alors 1917 c'est l'année de la déclaration Balfour, donc le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Balfour, qui fait cette fameuse déclaration où il promet le 2 novembre 1917 le foyer national juif au mouvement sioniste. En réalité, Lord Balfour ne l'a pas fait par sympathie particulière pour les sionistes, mais bien par antisémitisme. On sait aujourd'hui, d'après les archives qui ont été ouvertes, ces archives à lui, politiques et personnelles, qu'il était véritablement un antisémite. Donc pour lui, il s'agissait vraiment de se débarrasser des Juifs en Europe. Et d'autre part, il ne savait même pas où était la Palestine avant d'y aller pour la première fois en 1925. Et en tout cas, la déclaration Balfour, ce n'est pas lui qui l'a écrite, c'est un des, tout à l'heure je vous lirai un extrait d'ailleurs d'un des fondateurs du mouvement sioniste, on lui a dicté réellement et il l'a simplement dite et signée. Et donc, en 1917, le mouvement sioniste envoie un dossier, dont on a la trace notamment dans les archives diplomatiques françaises, demandant un territoire très grand. Et en fait, il y a une carte, tout à l'heure je vais vous montrer la carte, accolée à un document écrit. En fait, il demande la Palestine, il demande la Transjordanie, donc ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui, il demande le Liban au moins jusqu'au nord de Beyrouth, il demande la Syrie, il demande la moitié du Sinaï et une petite partie de l'Arabie Saoudite. Et en face de chaque région qui est décrite, il est question de ressources. Donc à tel endroit il y a du charbon, à tel endroit il y a du phosphate, à tel endroit il y a du fer. Donc ils savent exactement, ils s'inscrivent tout à fait, ce que je vous disais, dans ce projet colonial capitaliste où on va pour les ressources et aussi pour une main d'œuvre pas chère. Alors au début, ce document est accueilli avec plutôt bienveillance par les deux grandes puissances. Et puis quand même, ils se rendent compte que ça va être au détriment de leur propre demande. Donc on va quand même les restreindre à n'accepter que la Palestine. Cependant, ça n'arrêtera pas le mouvement sioniste. J'ai récemment travaillé sur des archives qui n'étaient pas du tout connues. C'est qu'en fait, le mouvement sioniste va acheter énormément de terres au Liban, va également acheter des terres au Syrie, mais beaucoup moindres. Et en réalité, ils auront beaucoup de mal à acheter des terres en Palestine et en Syrie, pour la simple raison, c'est que c'était des populations qui étaient très attachées à leurs terres, d'abord à majorité agricole, alors qu'au Liban, finalement, les Libanais vont assez facilement vendre. Et ce que j'ai découvert dans les archives, c'est que toute famille confondue, c'est-à-dire toute religion confondue, aussi bien les chrétiens maronites que les sunnites, que les chiites, qui aujourd'hui sont plutôt dans le chantre de la défense de leur État, du Liban. En réalité, je cite notamment une famille qui est la famille Ahmed al-Assad au sud du Liban. Il a vendu énormément de terres aux sionistes au Liban, tout simplement parce que ça leur permettait de financer les élections. Je ferme cette parenthèse, mais ça vous permet de comprendre qu'il y avait un projet global territorial qui était bien au-delà. Bien sûr, le mouvement sioniste est conscient qu'il y a une population, et notamment en Palestine, et que la population ne voudra pas céder le terrain, que c'est une population très attachée à la terre, qu'elle est très nombreuse aussi. Et donc, dès le début de la création du mouvement sioniste, on crée un comité de transfert qui va s'élaborer et s'agrandir au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure du poids et des aides que vont obtenir les sionistes dans cette entreprise. Donc, ils savent qu'il y a une population et ils ont déjà l'idée qu'il va falloir la transférer. Et ils élaborent déjà l'idée de la transférer. Soit il y a un projet sur l'Irak, il y a un projet sur la Libye. À un moment donné, ils pensent éventuellement à la Transjordanie. Mais en même temps, eux, ils veulent quand même continuer à avoir l'idée de pouvoir coloniser la Transjordanie. Donc c'est un schéma qui est réellement monté, c'est un programme, c'est un projet politique qui va être doublé d'un projet militaire puisque très rapidement sur le terrain, les sionistes vont commencer à s'organiser. Alors je vous disais au départ, ils sont très peu nombreux en Palestine. L'immigration juive qui arrive, beaucoup repartent d'ailleurs, quittent la Palestine et retournent en Europe parce que quand ils arrivent là-bas, ils sont très loin de l'image de ce qu'ils avaient imaginé, cette terre biblique telle qu'on l'a un petit peu mythologique, et ils ont une réalité totalement différente sur place. Et en fait, les Juifs qui quittent l'Europe veulent principalement aller aux États-Unis. Et c'est parce qu'en 1924, à un moment donné, les Américains décident de fermer la frontière à l'immigration rouge que ça va toucher et ça va empêcher donc les Juifs européens d'aller aux États-Unis, que le projet sioniste va pouvoir avoir un peu plus d'ampleur et qu'il va y avoir une montée plus importante d'immigration juive sur la Palestine. Les Palestiniens le savent et donc, comme je vous le disais, les manifestations prennent de l'ampleur, continuent. Et en 1935, à la fin de 1935, début 1936, il y a ce qu'on appelle la Grande Révolte qui éclate, et donc avec une grande grève générale qui va durer un peu plus de 6 mois, qui est décrétée, qui part des agriculteurs, parce que les agriculteurs se rendent compte qu'en fait l'objectif c'est de prendre la terre, et la terre c'est leur moyen de subsistance, c'est leur vie, et donc il y a une énorme manifestation qui va avoir une répercussion dans l'ensemble du monde arabe par un soutien énorme. Et en même temps, paradoxe, 1936, il se passe aussi des choses ici, ce n'est pas innocent, parce qu'on est aussi sur des dimensions sur le droit des travailleurs qui est mis en avant aussi en Palestine, avec des syndicats, donc on est vraiment dans une dynamique qui est mondiale déjà à l'époque sur la manière de voir les sociétés, mais avec aussi cette donnée particulière qui est cette question de la terre palestinienne et de la population palestinienne. Cette période est fondamentale parce que cette grande révolte qui va durer sur 3 ans, de 1936 à 1939, va être vraiment matée dans le sang par les Britanniques et va être l'occasion finalement pour le mouvement sioniste de se renforcer sur place. Et malheureusement, c'est ce qui va permettre aussi l'affaiblissement du mouvement palestinien, puisque toutes ces associations qui avaient été créées, je vous en ai cité une, mais plusieurs sont créées. Il y a aussi des associations de femmes qui sont très fortes, qui vont manifester de la même façon, et d'ailleurs qui sont avant-gardistes en Palestine, puisque elles vont militer sur deux fronts, la question nationale palestinienne, mais aussi la question du féminisme, et elles vont inscrire vraiment cette question-là de manière durable jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit vraiment tous ces mouvements qui vont se transformer en partis politiques. Et donc les Britanniques vont envoyer en exil les leaders de ces mouvements politiques palestiniens de revendication nationale et pour l'autodétermination. Et donc en fait, le terrain est préparé en quelque sorte pour ce qui va advenir. Le premier plan de partage qui est proposé, c'est en 1937. En réalité, il est soufflé par le mouvement sioniste. Et donc, bien sûr, refusé par les Palestiniens, il est accepté par le mouvement sioniste, non pas comme une fin en soi, mais bien, ils le disent clairement, comme l'idée que c'est un préalable avant de pouvoir acquérir l'ensemble du territoire. Et comme je vous disais, pas que ce territoire-là, puisque vraiment à la fin des années 30 et au début des années 40, qu'il y a un vaste mouvement d'achat des terres au Liban notamment. Les Palestiniens vont tenter de s'organiser comme ils peuvent, mais ils n'ont aucun moyen. Ils ont été complètement désarmés pendant cette grande révolte. Et donc, malheureusement, quand arrive 1947, le plan de partage voté à l'ONU, ils n'ont absolument pas les moyens, malgré le fait qu'ils ont constitué deux groupes armés de type de guérilla pour se défendre, en fait, par rapport à ce qui va se passer. Le plan de partage, alors ça, mon collègue pourra en parler beaucoup mieux que moi d'un point de vue juridique, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était un échec déjà dès le départ. D'abord, il n'a été obtenu, le vote n'a été majoritairement obtenu avec un oui que parce qu'il y a eu un ajournement de quelques heures qui a permis de faire pression sur les petits États qui allaient voter, pression américaine notamment, qui obligeait ces États finalement à voter oui, alors qu'en réalité, si le vote avait été obtenu à la première session, il aurait été majoritairement non. Et il est voté oui, mais en réalité, dès les quelques minutes suivant le vote, l'ONU sait qu'il n'est pas praticable, il ne sera pas praticable. D'abord, les Britanniques refusent qu'il y ait une instance onusienne. La logique aurait voulu que, si l'ONU a demandé à ce qu'il y ait ce partage, qu'il y ait une puissance onusienne qui vienne, enfin une force onusienne, pour le mettre en pratique sur le territoire. Or, justement, les Britanniques s'opposent à cela. C'est donc eux qui vont rester jusqu'au dernier moment entre les Palestiniens et les Juifs présents sur le territoire. En réalité, on sait aujourd'hui qu'ils ont largement aidé le mouvement sioniste à mettre en application ce partage et ce comité de transfert, c'est-à-dire l'expulsion de la majorité de la population. Il y a également eu des militaires américains, parce que là, on a les Américains qui commencent à rentrer dans la danse. Et donc, concrètement, les Palestiniens, même si les premiers jours de combat, ils semblent avoir une avance. Ils ont une avance d'abord parce que c'est leur territoire et ils le connaissent par cœur. Ils ont une avance parce qu'ils sont effectivement un peu partout, peu nombreux, mal armés, mais présents sur le territoire. Mais très rapidement, les sionistes obtiennent des renforts. Les trois milices juives qui existaient sur la Palestine mandataire vont se regrouper entre elles. Elles formeront d'ailleurs la future armée de l'État d'Israël. Et donc, très rapidement, le combat est complètement inégal. Et quand on arrive au mois de mai 1948 avec la création de l'État d'Israël, il y a déjà eu une grande partie de la population qui va être expulsée, qui est déjà expulsée, alors même que les Britanniques sont là. Et la première guerre israélo-arabe qui se déclenche en mai 1948 est déjà inscrite aussi dans sa réalité, c'est-à-dire une armée israélienne très puissante, pratiquement 100 000 personnes, très bien formées. Ils ont été formés parce qu'en fait, les sionistes avaient négocié leur engagement, notamment dans la Seconde Guerre mondiale auprès des Alliés, en échange de formation, d'appui aussi en armes et également de financement. Donc c'est comme ça que la population palestinienne se retrouve déjà réfugiée. Les deux tiers de la population va se retrouver donc sur les routes de l'exil. Et là, souvent, c'est pareil. Donc c'était pour ça que c'était l'objet de mon travail, parce que en travaillant dans les archives diplomatiques, mais ce que disaient déjà les historiens palestiniens, et confirmé aussi par les nouveaux historiens israéliens, c'est que la Nakba, elle commence en réalité au lendemain du vote de plan de partage, c'est-à-dire que ça commence dès que les premiers combats commencent, puisque les expulsions vont commencer très tôt, et donc en 1947, et se poursuivra jusqu'en 1953. Alors pourquoi 1953 ? Pour la simple raison, c'est que en 1953, il y a un massacre qui a lieu, c'est le massacre de Qibya, qui avait été organisé d'ailleurs par un personnage que vous connaissez puisque c'est Sharon. Et là, il y a un dossier qui arrive à l'ONU. Et là, il y a une particularité, c'est que c'est le début de la photo de presse. La photo de presse se diffuse énormément. Et là, il y a un dossier avec énormément de photos du massacre de Qibya qui arrive sur les bureaux de l'ONU. Et là, l'ONU tape sur la table et dit aux Israéliens, écoutez, il faut que ça cesse, il faut que vous arrêtiez, votre image va en pâtir. Et de fait, il y a la question primordiale de l'image jusqu'à aujourd'hui qu'on voit revenir, cette question permanente, c'est-à-dire non pas forcément votre action qui est importante, mais quelle image vous donnez. Et les Israéliens ont tout à fait conscience, puisque depuis le début de la création de l'État d'Israël, il y a tout un travail qui est fait autour de la propagande, parce qu'il s'agit bien de propagande, de vendre un projet, le projet de l'État d'Israël. pour un peuple sans terre, vous savez, toute la propagande qui avait été dite là-dessus. Et donc on est sur un travail d'image, alors que sur la réalité du terrain, on est sur tout à fait autre chose, et ils en sont tout à fait conscients. Et c'est ce que disent très bien d'ailleurs les archives de l'État d'Israël aujourd'hui. Donc le massacre de Kibia va non pas arrêter, parce que les expulsions vont continuer après dans le temps, elles vont simplement se réduire, elles ne seront plus à aussi grande échelle qu'elles n'en ont été dans cette période. En réalité, les Israéliens ne cesseront jamais d'expulser, et y compris jusqu'à aujourd'hui. Vous allez avoir une deuxième grande vague d'expulsion avec la guerre des six jours, donc en juin 1967. Et la guerre des six jours, qui va être une guerre éclair, qui est une guerre pour l'eau, qui est une guerre programmée aussi d'avance, et où là, en l'espace de quelques jours, Israël multiplie par quatre son territoire. Et là, devinez quoi ? Qu'est-ce qu'ils obtiennent ? Ils obtiennent l'ensemble de la Cisjordanie, la bande de Gaza, donc l'ensemble du territoire palestinien. Ils obtiennent le Golan, ils obtiennent le Sinaï, donc vous voyez bien qu'on est sur une partie de ce qu'ils avaient réclamé en 1917. Alors là, on attaque une deuxième phase au niveau de l'image qu'on va renvoyer. Donc c'est beaucoup à partir de 1967 que dans le discours israélien, on va rappeler aux Occidentaux, parce que là, pour une fois, vous avez eu le célèbre discours de Gaulle, mais il y a quand même un mouvement de contestation dans les chancelleries occidentales qui disent à Israël, non mais là, ça va pas, vous exagérez. Et donc là, on sort ce que le Norman Finkelstein, qui est un historien américain, dit, c'est l'industrie de l'Holocauste. Et donc on va rappeler aux Européens leur responsabilité dans le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième chose, comme c'est aussi le début de la colonisation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, donc c'est ce qu'on appelle le principe du fait accompli. Donc on va s'accaparer le territoire. Ils savent, ils se disent, les Israéliens, que d'un point de vue du droit international, ça ne va pas être tenable longtemps qu'ils gardent ce territoire. Donc il va falloir trouver d'autres moyens, et le fait accompli en est un. Et donc pour s'accaparer ce territoire, on colonise. Et donc pour justifier la colonisation, on ressort le texte religieux, en sachant que dans les années 50, le gouvernement israélien a annoncé clairement son côté laïque et non attaché à la religion. Et là, d'un coup, on bascule et on fait une grande place aux religieux, au discours religieux. Et là, de la même manière que ce que je vous disais au XIXe siècle, on arrive avec le texte biblique dans la main et on va faire l'archéologie à l'envers, c'est-à-dire qu'on va arriver à tel endroit et on va décréter que là, c'était telle trace qu'on retrouve dans la Bible, et on va renommer les lieux. C'est là que commence aussi le fait de donner des noms en hébreu pour effacer les noms en arabe, ce qu'on voit donc avec l'apparition de la Judée, la Samarie. Donc on voit vraiment l'entreprise se construire pour reforger une Palestine mythologique en effaçant les traces de la Palestine palestinienne, ce qui a été fait aussi en Galilée, puisque en 48, quand l'État d'Israël est créé, il y a donc plus de 500 villages qui sont rasés en Galilée, et avec un reboisement qui a été prévu dès 1924 et qui était comme idée de retransformer ce paysage, d'effacer ces traces orientales pour notamment y mettre notamment des espèces, des essences qui sont plutôt européennes et des essences qui soient aussi pas forcément bonnes pour l'agriculture, donc de manière à empêcher tout retour à l'agriculture de la population palestinienne encore présente, notamment pour celle qui était encore restée et qui était devenue israélienne. Donc 67, vous avez une deuxième vague énorme de réfugiés. Et puis à partir de là, ça va devenir plus compliqué pour les Israéliens d'expulser de manière massive. Donc en 67, donc pratiquement 500 000 réfugiés à nouveau, certains pour la deuxième fois. Et donc là, vous voyez se dessiner une autre chose, c'est que donc vous avez les réfugiés qui se sont retrouvés d'abord sur le territoire, mais déplacés, donc ceux qui étaient dans ce qu'on est devenu Israël, qui se retrouvaient en Cisjordanie ou qui se sont retrouvés à Gaza. Il y a tous ceux qui se sont retrouvés donc en Jordanie, au Liban, en Syrie. Et donc ça, c'est principalement les lieux où ils se sont retrouvés. Dans des camps de réfugiés qui vont devenir en réalité des véritables villes, aujourd'hui qui existent toujours. Et avec la création de l'UNRWA, qui effectivement est un office qui a été créé par l'ONU Tout le paradoxe, c'est qu'il a été créé par l'ONU avec l'idée qu'il allait disparaître très rapidement. C'était ça l'objectif. Parce qu'ils ont pensé, quand ils se sont réunis, qu'il allait disparaître au bout d'un an. Et quand la commission de conciliation aux Nations Unies se rend compte qu'il a été créé et qui a été à l'origine de la résolution 194-3, c'était imaginé qu'elle pouvait régler, que comme politiquement elle n'a pas réglé le problème, il restait une question, la question de l'économie. Il fallait créer les conditions de résoudre ce problème par l'économie. C'est le discours qu'on a jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, malheureusement, les choses sont écrites depuis le début de la même manière. Et donc l'UNRWA, ça avait comme objectif, c'était d'une part de créer des secours immédiats, parce que les réfugiés se sont retrouvés dans la rue, dans les champs, sous des tentes, enfin vraiment dans des conditions très précaires. En plus, il avait fait très très froid ces hivers-là, avec des maladies qui apparaissaient, des conditions classiques de réfugiés. Mais en plus de ça, dans des pays qui étaient nouvellement indépendants pour les réfugiés de 48, à 47, 48 et suivant. Et donc l'idée, c'était de créer des conditions, de les amener à s'intégrer dans les pays d'accueil le plus rapidement possible et à devenir une force de travail et à donc devenir indépendant financièrement comme ça. La seule chose qu'ils n'avaient pas compris, en tout cas les instances onusiennes, mais notamment les pays occidentaux, c'est que un arabe, c'est pas quelque chose qui se dilue. Il y a les Palestiniens, il y a les Libanais, il y a les Syriens, il y a les Irakiens. Il y avait de véritables identités propres, même s'il n'y avait pas de frontières. Il y avait des réalités de régions. Comme ici, vous êtes dans une région, c'est la région Poitou-Charentes. Vous ne vous confondez pas avec les Strasbourgeois, que je sache. Et donc, il y a des réalités comme ça qui existaient, bien sûr, et qui étaient très prégnantes au Moyen-Orient. Et donc, ces réfugiés palestiniens, d'une part, quand ils se sont retrouvés, regroupés dans des camps de réfugiés, ça renforçait leur identité palestinienne. Et souvent, d'ailleurs, ils se sont retrouvés par village ou par ville. Et d'autre part, il y a eu aussi le rejet des pays dans lesquels ils étaient réfugiés parce que c'était un problème économique, c'était un poids économique. Et d'autre part, il y avait un discours politique qui ne collait pas forcément avec la réalité politique du nouvel État devenu indépendant. Ça, c'était la première chose. Et donc, les Palestiniens aussi sont devenus des résistants. Ils sont devenus réfugiés, mais ils sont devenus résistants. Et le principe de la résistance, c'est que vous résistez par tous les moyens. Et donc, l'UNRWA a voulu créer des projets, donc notamment les projets de construction, que ce soit des barrages, que ce soit des routes qui étaient en construction dans les pays comme au Liban, en Jordanie ou en Syrie. En fait, ils ont voulu incorporer ces travailleurs palestiniens. Et les Palestiniens ont résisté au départ. Ils ont d'ailleurs même fait des attentats contre ces nouveaux projets de l'UNRWA pour montrer qu'à l'UNRWA, et notamment aux Nations Unies, ça n'était pas la question. La question, c'était le droit au retour et le retour dans leur foyer, bien sûr. Et donc, ça avait été une des problématiques de l'UNRWA. Et après, très rapidement, l'UNRWA s'est retrouvée stigmatisée par les Israéliens parce que ça devenait la reconnaissance de la responsabilité de l'État d'Israël dans les expulsions palestiniennes, dans le statut de réfugié. Parce que pour avoir droit au bénéfice de l'intervention de l'UNRWA, donc en termes d'éducation, de santé, de droit au logement, d'aide financière pour des projets d'entreprise, il fallait être inscrit en tant que réfugié. Et donc l'UNRWA a très rapidement créé ce qu'on a appelé les cartes de l'UNRWA, donc qui inscrivaient les noms de réfugiés, leur origine, donc leur ville ou leur village d'origine. C'était donc un peu gravé dans le marbre, j'allais dire, cette condition de réfugié et la responsabilité première, donc forcément israélienne. Et donc l'UNRWA est devenue la bête à abattre par Israël très rapidement. Et donc cette instance devait disparaître, et c'est pour ça qu'elle n'avait pas été raccrochée au commissariat aux réfugiés, au HCR, parce qu'elle devait disparaître rapidement. On ne devait plus voir de réfugiés palestiniens. Malheureusement, l'UNRWA est toujours existant jusqu'à aujourd'hui, parce que les réfugiés sont toujours présents jusqu'à aujourd'hui. Il y a plus de 5,7 millions officiellement répertoriés par l'ONU. Bien sûr, tous ne bénéficient pas de l'aide de l'UNRWA. Aujourd'hui, il y a 1 500 000 qui vivent encore dans les camps de réfugiés. Par contre, les 5 millions donc ont bénéficié de cette carte qui est transmise aux descendants, parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que c'est une volonté politique. Tant qu'Israël n'a pas reconnu la question des réfugiés, sa responsabilité dans l'histoire des réfugiés. Et deuxième chose, c'est la question du droit aux compensations, puisqu'il est dit dans la résolution 194-3 que les Palestiniens auraient droit à des compensations. Et pour ça, bien évidemment, les Palestiniens transmettent à leurs descendants ce fameux document. Quand les négociations d'Oslo ont eu lieu en 1993, ça a été un des dossiers que les Israéliens ont mis sur le tapis tout de suite, en sachant qu'il y a une particularité qui est arrivée, qui est liée à Oslo. Là où les Israéliens ont su manier le politique et le juridique pour arriver à leur fin, c'est qu'en 1991, quand il y a eu la fameuse conférence de Madrid qui a eu lieu après la guerre du Golfe, vous savez, la guerre du Golfe avec le Koweït et l'Irak, ben là, quand il y a eu les interventions internationales pour sauver le Koweït de l'occupation irakienne, l'ensemble du monde s'est soulevé, et en particulier le monde arabe, et en particulier les Palestiniens, pour dire, ben, et nous, c'est du deux poids deux mesures, pourquoi vous n'intervenez pas pour la Palestine? Donc là, quand même, il y a eu des pressions, et donc finalement, les Américains ont dit oui, bon, c'est vrai, d'accord, l'Arabie Saoudite a fait pression aussi dans ce sens-là. Et finalement, donc à la conférence de Madrid, ce qui a été négocié par les Israéliens qui ne voulaient pas venir, mais les Israéliens ont été un peu sommés par les Américains, ils ont dit d'accord, on vient, mais à certaines conditions. Et la condition, ça a été effectivement que l'ONU, ce n'est pas l'ONU qui l'a organisé, ce sont les Américains qui sont devenus les chefs d'orchestre. L'ONU n'avait qu'un strapontin à la conférence de Madrid, ils étaient présents, mais sur un strapontin. Et la deuxième condition, ça a été l'annulation de la résolution de 1975 qui disait que le sionisme, c'était du racisme. Et donc, elle a été abrogée en 1991. Ça faisait partie des deux conditions. Et la troisième fondamentale, et qui était la principale finalement, c'était aucune mention de la résolution 594-3, qui parle donc du droit au retour, du statut de Jérusalem, du droit à des compensations. Résolution qui est fondamentale pour les réfugiés, tout simplement parce qu'elle marque dans son sein, elle s'est basée sur la résolution des droits de l'homme d'ailleurs. Elle a été votée, c'est pas innocent, le 11 décembre 1948. Et donc c'était le lendemain du vote de la résolution sur les droits de l'homme. Elle reprend cette idée de toute personne qui quitte son pays a le droit de revenir, je crois que c'est l'article 13 de mémoire. Et donc quand le comte Bernadotte a fait son fameux rapport à l'ONU juste avant d'être assassiné, c'est ce rapport qui a servi de base à la résolution 194-3. On s'inscrit dans ce contexte des droits de l'homme, donc on est vraiment dans ce contexte là et donc les Israéliens savent très bien que forcément c'est un droit international dont il est question, et c'est ça qui est la base. Même s'ils ont mis l'ONU sur un strapontin, cette résolution va le rappeler, et donc ils demandent à ce qu'elle ne soit pas mentionnée. Donc en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui, où l'ONU finalement a été au fur et à mesure écartée. Les résolutions onusiennes par rapport aux réfugiés palestiniens sont, il y a je crois, 4 tomes maintenant non appliqués. Et bien évidemment, les Américains qui jouent toujours les chefs d'orchestre, et avec un rôle qui est important quand même, et je tiens à le préciser, la question de l'Europe, parce que l'Europe a un rôle à jouer, puisque c'est quand même elle qui finance de manière principale l'autorité palestinienne qui a été mise en place après les accords d'Oslo, et par conséquent qui devrait jouer un rôle, qui a des rapports tous les ans qui lui expliquent la situation de ces réfugiés, des Palestiniens qui continuent de se détériorer. La situation générale des Palestiniens, parce qu'il ne s'agit pas que des réfugiés. Il y a aussi la question, et je l'évoque juste un petit peu, mais on pourra en parler dans le débat, des Palestiniens israéliens, de ce qu'on appelle les Arabes israéliens, qui sont en réalité des citoyens de troisième zone, qui certes bénéficient du passeport israélien, bénéficient du droit de vote, mais en réalité, dans leur vie courante, ils ont énormément de libertés qui leur sont interdites. Par exemple, pour être étudiant en fac, les nombres des places sont limités, les bourses sont limitées. S'ils veulent faire un emprunt à la banque, ils n'ont pas les mêmes taux d'intérêt que les juifs, concrètement. Donc il y a vraiment une classification, et je dis de troisième zone, parce que il y a une différence déjà entre les juifs européens et les juifs orientaux, les ashkénazes et les séfarades. Donc ça constitue l'ensemble du paysage de la population palestinienne, où la majorité, donc sur les pratiquement 11 millions aujourd'hui, donc vous voyez, sont toujours considérés comme des réfugiés. Et avec une situation aujourd'hui qui fait que la question est d'autant plus explosive, c'est que les accords d'Oslo n'ont finalement amené ce qui était prévu, d'ailleurs prévisible, du fait d'écarter le droit international à une mise en place d'un apartheid avec un système de bantoustan en Cisjordanie. Donc vous avez trois zones maintenant en Cisjordanie, desquelles pour passer d'une à l'autre pour les Palestiniens, c'est un vrai parcours de combattant. La bande de Gaza qui est complètement enfermée, qui est une prison à ciel ouvert, et le statut des Palestiniens dans les pays arabes qui est catastrophique, puisque vous avez vu au moment de la guerre du Golfe, les réfugiés palestiniens qui étaient en Irak se sont retrouvés à être obligés de se réfugier dans le désert syrien parce que impossible de les faire rentrer dans un autre pays. Souvent, ils ont des laissés-passer qui leur restreignent le droit de circulation de manière très importante. Aujourd'hui, vous avez les réfugiés syriens, palestiniens de Syrie, donc le camp de Yarmouk qui a été très fortement bombardé, qui de la même manière ont beaucoup de difficultés à partir. Vous avez les réfugiés du Liban. Alors le statut des réfugiés du Liban qui est extrêmement difficile puisqu'ils sont précarisés par le statut même de la situation politique au Liban, où vous avez un système politique organisé autour de la représentation des religions. C'est-à-dire que c'est un système qui a été issu du mandat français où donc il y avait eu des recensements qui avaient été à l'époque et qui n'ont jamais été refaits parce qu'a priori ça a changé, où donc le président est un marinoïte, le premier ministre est un sunnite, donc c'était à la représentation proportionnelle de la population. Et s'ils intègrent la population palestinienne qui est à majorité sunnite, vous allez avoir un basculement de cet équilibre. Donc il est hors de question de les intégrer, donc ils ont des laissés-passer qui leur sont renouvelés qu'au compte-gouttes. Et de plus, depuis la guerre du Liban, il y a une stigmatisation de la population palestinienne qui n'a pas le droit de faire 75 métiers, donc un appauvrissement de cette population, donc des besoins accrus de l'UNRWA qu'on empêche parce que les Israéliens n'ont pas réussi à les éliminer au moment des accords d'Oslo, puisque ça faisait partie de leur projet. Mais il y a de fait une diminution des aides tous les ans auprès de l'UNRWA, alors que finalement les bombardements continuent. Vous avez vu sur Gaza aussi les conditions, donc en Syrie, au Liban. Et donc il y a une demande encore plus importante pour subvenir aux besoins et aux nécessités des Palestiniens là-bas. Donc vous voyez un tableau qui est assez difficile. Je vais vous montrer pour terminer quelques images pour vous plonger dans le visuel par rapport à cette histoire de réfugiés. Donc en fait là on part de la Palestine telle qu'elle s'inscrivait donc au lendemain du découpage du mandat, enfin de l'Empire ottoman. Et puis, attendez, je vais faire une bêtise. Donc ça, c'est une photo. Donc ça, c'est une photo. Alors, j'ai la très grande chance, c'est que je vis dans la ville où il y a les archives diplomatiques françaises. Donc c'est une vraie caverne d'Ali Baba pour moi. Et donc ça, c'était photo de Bonfils, qui est un célèbre photographe français, qui a été à Jérusalem, donc et en Palestine d'ailleurs, il a pas mal sillonné. Et pour vous montrer la densité urbaine, ça aussi c'est important de rappeler que les Palestiniens avaient une dynamique économique, une dynamique de pays qui était très forte. D'ailleurs, il y avait beaucoup de Libanais, de Syriens, même d'Algériens qui venaient travailler en Palestine parce que c'était dynamique. Et vous voyez la densité de la Palestine, de Jérusalem, qui a été une ville très, très peuplée et importante. Alors attendez, est-ce que là je fais des bêtises ? Non ? Je sais plus. Ah, ça y est. Bon. Bon, il veut pas passer. Ah. Voilà. Alors ça, c'est le type de document, voilà, qu'on trouve, qui vous montre justement à quel point les Palestiniens étaient au courant de ce qui se passait. Donc c'est donc dans le cadre justement du comité islamo-chrétien. Donc c'est le secrétaire de la société islamo-chrétienne Jamal al-Husseini qui écrit donc Excellence le consul général de France en Palestine. Tous les habitants de la Palestine et de Transjordanie ont cessé le travail le 13 et 14 courant. Donc on est en 1922. en guise de protestation contre le mandat qui prochainement sera soumis à la Ligue des Nations pour ratification. Les habitants qui avaient protesté sans relâche aux fins d'arriver à la reconnaissance de leurs droits naturels, mais sans aucun succès, commencent à réfléchir et à penser qu'ils auraient intérêt à ne plus suivre les voies pacifiques qu'ils ont adoptées jusqu'ici. La ratification du mandat entraînera de terribles calamités dont les conséquences seront la destruction des lieux saints. Vous voyez, on est en 1922, les choses sont assez clairement visibles déjà à l'époque. C'est dans les archives diplomatiques, ouais. Ça, c'est un autre document que j'ai trouvé dans les archives diplomatiques que je trouve très beau. Donc, il s'avère que la Palestine était très riche en journaux. Elle avait vraiment un grand dynamisme au niveau production de journaux. Et donc, ça, c'est un des principaux journaux qui a été édité à Jaffa. Jaffa, qui était la ville politique et intellectuelle. Donc, c'est Palestine. Et donc, avec le fameux J'accuse qui est repris par rapport à ce qui se passe en Palestine. Et donc, c'était une édition par rapport justement à la visite de Balfour, parce qu'il arrive en Palestine en 1925. Et donc, ça s'adresse à lui. Et voilà, pour vous montrer la pertinence. Donc ça, c'est un autre tract, appel au monde civilisé. Ça, c'est toute l'ironie, vous voyez, parce que tout le discours des États comme la France et l'Angleterre sur cette mission de civilisation, et ils ne cessaient d'ailleurs de l'utiliser en disant « nous venons vous civiliser, vous les barbares », quoi, sous-entendu, et nous devons vous aider à vous civiliser, et justement les Palestiniens les prennent dans leur propre discours au piège en disant « appel au monde civilisé ». Et bon, c'est un texte très intéressant. Tout à l'heure, je vais vous lire juste pour terminer deux, trois petites témoignages. Alors ça, c'est la fameuse carte proposée par les sionistes. Et donc, vous voyez les frontières. Bon, là, c'est la lumière est peut-être pas très bonne, mais c'est pour vous donner l'étendue. Donc, ça arrivait jusque là. Donc, ça englobait une partie de l'Arabie Saoudite, donc jusqu'à la moitié du Sinaï et au nord, au moins jusqu'à Beyrouth. Donc, vous voyez le territoire qu'ils réclamaient. Et à côté de ça, c'était avec les ressources qu'il y avait à l'intérieur. Ça, c'est un tract de 1938. Donc, on est en plein moment de la Grande Révolte. Et qui a été fait par les Palestiniens qui étaient réfugiés, enfin qui n'étaient pas réfugiés, les leaders qui avaient été chassés, notamment certains en Syrie. Et donc c'est une très belle affiche, je trouve, parce que bon, vous avez Jésus en palestinien. Ça, c'est une autre chose aussi que j'aime bien raconter. Si vous regardez aujourd'hui les images, la manière dont on montre Jésus, il est quand même de plus en plus blond, je trouve, au fur et à mesure des années qu'on avance. Il a des yeux de plus en plus bleus, alors qu'a priori, je pense qu'il ressemblait plutôt à ça. Et là, vous avez donc les avions, parce qu'en fait, les Britanniques vont mater la révolte de manière très violente d'un point de vue armé, et notamment avec des... Il y aura beaucoup de bombardements par avion. Et le fameux chapeau britannique avec la pipe, ça c'est la petite, le petit clin d'œil par rapport au mandat britannique. Ça, c'est un autre tract que je trouve extraordinaire. Donc, toujours 1938. Alors, vous voyez, vous avez Jérusalem dans le fond. Vous avez les chars. Donc, c'est vraiment... ça montre à quel point ça a été violent et dur. Et en même temps, on a l'impression d'être dans un tableau italien, vraiment avec les Madones. Vous avez d'ailleurs une femme au sein nu. Donc, une représentation aussi de la Révolution française. Donc on voit, il y a plein de symboles comme ça qui apparaissent, et j'ai trouvé vraiment ce tract assez extraordinaire, voilà, d'imagination et en même temps de symboles, quoi. Donc ça, c'est la réalité de 48, donc une image qui est connue, donc les fameux chars et les moyens que possédaient les sionistes pour justement faire leur projet. Et vous savez, toute la phrase en disant qu'on nous sort régulièrement en disant oui, les Palestiniens ou le Hamas dit ils veulent nous jeter à la mer. En réalité, c'est ce qu'ils ont fait, en fait, les Israéliens, enfin les sionistes et devenus après Israéliens, ils ont jeté les Palestiniens à la mer et dans le désert, enfin sur les terres, sur les routes, quoi. Donc c'est ça la réalité. Donc ça, c'est une image qui est connue. Mais j'ai voulu la montrer parce que malheureusement aujourd'hui ça continue. Et là j'étais encore en Palestine il y a quelques semaines et bon, c'est ce grillage continue d'avancer. Et donc ça c'est les tentes, les premières tentes, donc en toile. qui se sont transformées en tôles et puis après en dures, et qui aujourd'hui sont, même si régulièrement les Israéliens attaquent ces camps de réfugiés pour élargir les voies souvent, c'est aussi cette image voilà, du fait qu'ils ont été, se sont retrouvés sans rien, pieds nus. Ça fait partie vraiment de l'histoire. Et on a tendance à oublier voilà, les conditions dans lesquelles étaient ces camps et dans lesquelles ils sont restés longtemps. L'intifada de 1987 qui a permis de remettre sur le devant de la scène la question palestinienne et notamment de la reposer aux puissances occidentales. Donc c'est important parce que ça fait écho à 1936-38. Et voilà, ça c'était une image qui revenait régulièrement. Alors la carte, donc ça c'est, moi je dis souvent c'est une histoire sans parole. Vous savez, quand les gens ils vous disent oui, mais les Palestiniens sont des terroristes, oui, mais les Palestiniens ils sont divisés, oui, mais les Palestiniens, je dis moi je regarde la carte. Et a priori, que l'on soit juriste, que l'on soit historien ou que l'on soit sociologue, elle parle toute seule, quoi. Donc l'intifada de 2000, puisque là, on est arrivé dans justement l'échec des accords d'Oslo, et elle fait suite réellement à l'échec des accords d'Oslo. Le fameux mur, donc dont condamné par la Cour pénale internationale en 2004, qui a un rapport d'ailleurs qui est remarquable sur la condamnation du mur, mur qui continue de progresser, mur qui vise à s'accaparer les terres, mais aussi avec objectif de s'accaparer la totalité, puisque c'est un mur qui est démontable. Et ça, c'est important de le redire, puisque ce sont des plots et qu'ils les font bouger. Et à Jérusalem, c'est très visible. Il avance progressivement comme ça. Donc voilà le tracé du mur avec les miradors. En sachant que maintenant, donc, ce sont des entreprises privées, beaucoup, qui font la sécurité sur le mur et sur les checkpoints. Ça, c'est une nouveauté qui est en train d'arriver avec la privatisation. Donc on arrive à un système très, très dur. Donc ça, ce sont les images, vous voyez, dans les villes et les villages d'enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, et c'est très fréquent, qui sont obligés de passer par le mur. Et enfin, le checkpoint comme un peu cage à bétail. Et je vais juste terminer en vous lisant, j'ai encore 5 petites minutes, 3 extraits. Un extrait d'un auteur palestinien de 1905. Un extrait d'un consul français et puis un extrait d'un leader sioniste. Donc, c'est un extrait de Najib Azouri, qui était un intellectuel palestinien, qui parlait 7 langues, voilà, et qui écrit en 1905 dans un livre qui est intitulé « Le réveil de la nation arabe dans l'Asie turque ». Je cite. Deux phénomènes importants, de caractères identiques mais opposés, et qui n'ont jusque-là pas encore attiré l'attention, apparaissent dans la Turquie asiatique. Il s'agit du réveil de la nation arabe et l'effort des Juifs pour établir à nouveau, et à une très grande échelle, l'ancien royaume d'Israël. Ces deux mouvements sont destinés à se combattre sans fin, jusqu'à ce que l'un d'entre eux l'emporte. Le destin du monde entier dépend du résultat de ce combat entre deux peuples, qui représentent deux principes contradictoires. Je ferme la parenthèse. Donc vous voyez que c'était déjà clairement dit. Donc un extrait ensuite donc de Menahem Ussishkin, qui était donc membre de l'agence juive et qui a été celui qui a élaboré notamment la déclaration Balfour, et qui dit en 1936, je cite, « Je voudrais vraiment que les Arabes partent vers l'Irak et j'espère qu'un jour ils iront là-bas, car les conditions agricoles sont meilleures en Irak que sur la terre d'Israël, en raison de la qualité du sol. Ensuite, ils seraient dans un État arabe et non dans un État juif. Nous n'arriverons pas à les déloger de là-bas, la Palestine. Pas seulement parce que nous ne le pouvons pas, malgré l'échange qui a eu lieu entre les Grecs en Asie mineure et les Turcs, entre la Turquie et la Grèce, mais parce qu'aujourd'hui, ils n'accepteraient pas cela. Aujourd'hui, nous pouvons demander d'inclure la Transjordanie à la terre d'Israël, à condition que la Transjordanie soit mise à disposition pour la colonisation juive, ou pour réinstaller les Arabes dont les terres en Palestine seraient achetées. Ceci est le problème de la terre. Maintenant, les Arabes ne nous veulent pas, car nous voulons devenir les dirigeants. Je me battrai pour cela. Je m'assurerai que nous serons les propriétaires de cette terre, car ce pays nous appartient et pas à eux. Il n'y a pas d'autre moyen que de transférer les Arabes vers les pays voisins, de les transférer tous. Pas un village, pas une tribu ne doit rester. On est en 36. Et enfin, le témoignage donc, d'un consul français qui était donc sur place, qui était donc le consul Landy, et qui a énormément sillonné donc la Palestine au moment justement des expulsions et qui a fait des rapports qui sont d'une clarté incroyable. Et donc ça, c'est un rapport qu'il écrit le 10 octobre 1948. Donc Pierre Landy, je cite. À Nazareth, la situation de la population s'est aggravée. Quoi qu'en veuillent les journaux israéliens, la ville est pleine de soldats. Notre vive réaction pour la défense des établissements fait que ceux-ci sont à peu près tranquilles, y compris les populations de réfugiés arabes qu'ils abritent encore. Dans le but d'aider le supérieur de notre vaste orphelinat de Jésus adolescent, encombré de 400 villageois de deux bourgades voisines et prise sans combat par les Juifs, je me suis renseigné auprès du gouverneur israélien de Nazareth sur le point de savoir s'il serait possible de faire rentrer ces réfugiés chez eux, leur maison n'ayant point encore été touchée. Je me suis heurté à un refus catégorique qui n'a même pas, comme en d'autres cas, été fardé de prétextes hygiéniques. Tout village abandonné est un village perdu. Que les réfugiés soient au-delà des frontières n'y change rien. Ils ont eu peur des Juifs, ils ne seront pas de bons Israéliens. C'est un péché qui n'est pas pardonné. Le retour des réfugiés est de moins en moins probable. La vérité, en effet, est que, sans songer à laisser rentrer les fuyards, les Juifs préfèrent en créer de nouveaux. On ferme les yeux à Nazareth, comme à Acre ou dans la montagne du Carmel, sur ceux des Arabes qui fuient encore vers Bissan et l'illusoire tranquillité du royaume hachémite. Les Juifs qui n'ont pas vidé l'abcès au cours d'une conquête souvent sans gloire procèdent maintenant à un plus soyeux nettoyage. De plus en plus, l'emprise juive sur la Palestine revêt les allures d'une colonisation par la force. Voilà un petit peu l'histoire des réfugiés et où on en est aujourd'hui. Avec un parcours un peu rapide, mais c'était pour vous permettre d'avoir des éléments. Et on continue avec le débat.
Merci beaucoup, chers collègues, pour cet exposé brillant, très riche. Et je le tiens à souligner parce que sur une question, vous le savez, qui est très sensible, d'une très grande objectivité. Et je vous en remercie. Je suis très content d'être ici, même si ce n'est pas facile pour un juriste, particulièrement spécialiste de droit international, parce que alors, malheureusement, c'est quand même une question... Le droit international est un des droits les plus violés, hein, vous le savez, mais sur la question palestinienne et les conflits israélo-palestiniens par la suite, ou même les conflits israélo-arabes qui ont précédé, c'est une succession de viols du droit international. Pour certains, dont je fais partie même dès la création de l'État d'Israël, non pas tant d'ailleurs par rapport à l'idée même de créer cet État, mais plus par rapport à la façon dont il a été créé, puisqu'il y a toujours quand même des formes à respecter. Alors peut-être que je peux faire deux petits points juridiques par rapport à ce que vous avez dit qui permettront d'éclairer une partie de ce que vous avez dit, et ensuite de donner la parole à la salle. Notamment, on a beaucoup parlé de l'ONU hein, dans cette affaire, et c'est vrai que c'est un acteur majeur, même si vous l'avez très bien expliqué, le problème est bien antérieur à l'existence de l'ONU, et la Société des Nations a sa part de responsabilité, et les puissances coloniales de l'époque également. Alors, l'ONU, plusieurs choses. D'abord, vis-à-vis de l'ONU, il faut toujours avoir en tête la phrase de Churchill. L'ONU n'a pas été créée pour que le paradis s'installe sur Terre, elle a été créée pour éviter que l'enfer ne s'y installe. Donc, quand on raisonne par rapport à cette phrase, on se dit que voilà, il faut toujours se demander qu'est-ce qui se passerait si l'ONU n'existait pas. Alors, elle a commis des erreurs, elle est très critiquable, mais elle a quand même fait un certain nombre de choses bien. Et par exemple, c'est vrai que l'UNRWA, on peut estimer que ce n'est pas grand-chose, mais ça a le mérite d'exister. Voilà. Donc il faut toujours voir ça par rapport à l'ONU. Puis l'ONU, il ne faut pas oublier que c'est une organisation internationale. On peut aussi dire intergouvernementale ou interétatique. C'est-à-dire que l'ONU, ce n'est jamais que le reflet de ce que veulent les États. Le droit international est un droit d'État, fait par les États pour les États. Et donc, qui reflète la volonté de la société internationale à un moment donné et nécessairement des rapports de force. Qui n'ont pas fondamentalement évolué depuis 1945. En même temps, en 1945, lorsque l'ONU a été constituée, on avait 51 États qui sont à l'origine de l'ONU. on était loin des 193 aujourd'hui. Aujourd'hui, il est clair que Israël ne serait pas créé. Hein, pas avec les 193 États membres de l'ONU qu'on connaît aujourd'hui. Mais vous n'aviez pas tous les peuples sous domination coloniale qui ne s'étaient pas encore constitués comme État. Et l'Assemblée générale qui a créé l'État d'Israël était dominée par le camp occidental et avec un nombre d'États qui sortaient de la guerre, qui avaient effectivement d'autres problèmes à régler. Et c'est vrai que les États-Unis maîtrisaient l'Assemblée générale, à tel point que, on l'oublie, mais l'URSS avait demandé à avoir 3 sièges à l'Assemblée générale. Il y avait l'URSS, l'Ukraine et la Biélorussie, pour rééquilibrer un petit peu. Alors, ça m'amène à un autre aspect important. Au sein de l'ONU, vous avez 2 organes principaux que vous connaissez. Vous avez l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, qui est un peu le grand absent de votre exposé, mais c'est normal, hein, par rapport, puisqu'il a été le grand absent sur ces questions-là, alors que normalement, c'est lui qui aurait dû être compétent. L'Assemblée générale, c'est ce qu'on appelle un organe plénier, qui comporte et qui comportait déjà à l'époque tous les États membres de l'Organisation des Nations Unies, avec un principe qui est un État égale une voix. C'est-à-dire que chaque État, les États-Unis comme l'Arabie Saoudite à l'époque, ou la Chine nationaliste, ou la France, avaient le même poids. Et aujourd'hui encore, un État égale une voix. Et l'Assemblée générale vote ces résolutions, qui sont ce qu'on appelle des recommandations, et vous allez voir que ça a du sens. Elle vote ces résolutions à la majorité simple, ou pour les questions importantes, à la majorité des 2/3. La création de l'État d'Israël a été votée à la majorité des 2/3. Alors après, vous avez évoqué, il y a eu effectivement un certain nombre d'éléments qui peuvent apparaître contestables. Mais vous doutez bien qu'à partir du moment où les États-Unis ont le même poids qu'une petite puissance, ils ne pouvaient pas admettre que les résolutions de l'Assemblée générale aient la moindre valeur juridique. Or, c'est précisément le cas. Les résolutions de l'Assemblée générale ne sont que des recommandations, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une force juridique contraignante. Le seul qui peut imposer quelque chose aux États, c'est le Conseil de sécurité, organe restreint, 15 membres, 10 non permanents, qui sont élus par l'Assemblée générale tous les 2 ans, et puis les fameux 5 permanents que vous connaissez, qui n'ont pas changé depuis 1945, bon, à part quelques appellations. Et fondamentalement, si on s'en tient au droit, la première, mais je m'en tiens juste au droit, je ne parlerai même pas des distorsions qu'il y a pu y avoir dans le vote, le premier viol, il est là. C'est-à-dire que la compétence de la création de l'État d'Israël aurait pu échoir à l'ONU, mais au seul Conseil de sécurité, pas à l'Assemblée générale. Parce que le Conseil de sécurité aurait pu considérer que dans cette zone, il y avait une menace contre la paix et la sécurité internationale, et qu'en vertu des pouvoirs qui lui avaient été confiés par les États membres de l'ONU, même si en 1947, il ne reflétait pas l'ensemble de la société internationale, il devait créer un État, faire un plan de partage sur le territoire palestinien. Ça, c'était possible, mais pas à l'Assemblée générale. Bon, maintenant, on a un état de fait qui fait que ce n'est plus véritablement contesté. L'État d'Israël est là. Et le problème, c'est tient plus sur la question de l'État palestinien. Donc, c'est la même chose après pour une résolution que vous avez citée, qui est très importante, effectivement. C'est la résolution 194-3. 1948, là encore, c'est une résolution de l'Assemblée générale. Donc ce n'est qu'une recommandation, pas de portée juridique obligatoire, pas de portée juridique contraignante. On l'oublie, mais vous avez une résolution qui condamne encore aujourd'hui, vous avez parlé des 4 volumes, ça dépend ce qu'on met dans les volumes, mais chaque année, vous avez une résolution qui condamne la situation en Palestine et qui condamne Israël. Et Israël, au regard du plan du droit international, n'est pas tenu par cette résolution, parce que c'est une résolution de l'Assemblée générale qui n'a pas de valeur juridique contraignante. En revanche, on a eu très peu de résolutions du Conseil de sécurité. Et on n'en a pas eu durant cette période. Pourquoi ? Parce que la guerre froide faisait que le Conseil de sécurité était totalement bloqué. En ce sens que dès qu'une résolution pouvait être adoptée qui pouvait être jugée comme favorisant le camp occidental, le camp communiste votait contre, mettait un veto, puisque vous savez que les 5 membres permanents ont ce droit de veto. Et inversement, lorsqu'on avait une résolution qui pouvait favoriser le camp occidental, le camp communiste, eh bien, le camp occidental émettait un veto. Et puis il y a eu un autre problème qui a fait que le Conseil de sécurité s'est désintéressé de la question, c'est qu'il était préoccupé, de la question que vous évoquez vous dans votre exposé, il était préoccupé par la Corée. Et il était sur cette question coréenne. Mais quand même, l'affaire était suivie. L'affaire était suivie par le Conseil de sécurité qui n'est pas intervenu. Donc on a ça, si vous voulez. On a le seul organe qui pourrait véritablement prendre des décisions contraignantes pour Israël aujourd'hui et depuis 1945, c'est le Conseil de sécurité qui est soumis à ce pouvoir de veto avec la protection qui est assurée par les États-Unis depuis toujours à l'État d'Israël. La seule fois où elle a cédé, c'est la résolution, la fameuse résolution 242, qui condamnait, mais avec des termes un peu diplomatiques, sans viser le chapitre 7, qui condamnait l'occupation des territoires occupés à l'issue de la guerre des six jours. C'est la seule qu'on ait véritablement du Conseil de sécurité. Et depuis, il n'y en a pas eu. Et ça, les rédacteurs de la charte avaient prévu le droit de veto pour une question de réalisme, en sachant très bien qu'on ne pourrait rien faire contre les grandes puissances. Ce qui n'avait pas été prévu, et ça a sans doute été une erreur, c'est que les grandes puissances s'en serviraient pour protéger un certain nombre de clients politiques. Hein, et ça, c'est arrivé très vite. Donc ça, c'est une chose. Il faut toujours distinguer ce que fait l'Assemblée générale de ce que fait le Conseil de sécurité. Et idem pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, que vous avez citée, qui a été adoptée la veille de la résolution sur le droit au retour, avec l'article « C'est le bon ». C'est une déclaration qui n'a pas de valeur juridique contraignante aujourd'hui. Tous les États qui adhèrent à l'ONU la reconnaissent, mais c'est pour ça qu'on a voulu après qu'il y ait des traités qui viennent conforter ces droits. Et le problème, c'est qu'on a eu une déclaration universelle en 1948, mais après il a fallu attendre 1966 pour avoir deux pactes, donc deux traités internationaux, reprenant ces droits. Un traité qui était signé plutôt par le camp occidental, avec des droits civils et politiques, et un traité qui a été plutôt signé par le camp communiste avec des droits économiques et sociaux. Bon, mais là, on sort du sujet. Autre distinction qui est importante, là vous commettez une petite erreur, mais vous n'êtes pas la seule, vous n'en faites pas, c'est la distinction entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Et là, on a la Cour pénale internationale, on va en parler, je pense, parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui et je pense que s'il y a un acteur qui pourra faire évoluer la situation, alors peut-être pas en bien, hein, mais qui pourra faire évoluer la situation du peuple palestinien, c'est sans doute la Cour pénale internationale. Elle est relativement récente, elle a été créée en 1998, elle commence à fonctionner depuis 2002, elle n'a pas de compétences rétroactives, hein, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas juger les crimes qui ont été commis, y compris durant l'opération Plomb durci ou autre. Elle ne peut juger que des crimes qui sont commis qu'à partir du moment où elle a commencé à fonctionner, et surtout à partir du moment où un État adhère à son statut. Cette Cour pénale internationale, elle est là pour juger des individus qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide, et exclusivement des individus. Donc de toute façon, elle ne condamnera pas Israël. Elle pourra éventuellement condamner des militaires israéliens, des chefs de guerre israéliens, voire des chefs politiques, mais pas Israël. Alors, à ne pas confondre avec la Cour internationale de justice, qui, elle, existe depuis 1945, qui est l'organe judiciaire de l'ONU, juridictionnel plutôt, et qui, elle, est chargée de régler les différends, donc les litiges entre États. Et la Palestine n'a évidemment jamais pu la saisir, puisque seuls les États membres de l'ONU peuvent la saisir. Parce que sinon, il pourrait y avoir éventuellement une saisine. Et alors, c'est vrai qu'elle est intervenue dans le mur, hein, mais elle a un double pouvoir. Elle a un pouvoir contentieux, donc les problèmes entre deux États ou trois États, et elle a un pouvoir consultatif. Et là, elle ne rend que des avis consultatifs. Qui peut la saisir pour rendre des avis consultatifs? Soit l'Assemblée générale, soit le Conseil de sécurité. Elle a été saisie par l'Assemblée générale à une très forte majorité, puisque les États sont présents. Et si l'Assemblée générale avait un pouvoir, la question serait réglée depuis longtemps, enfin, d'un point de vue juridique. Elle a été saisie pour, effectivement, rendre un avis qui est remarquable à tout point de vue, parce qu'elle ne nous a pas habitués à ça, malheureusement. La Cour internationale de justice, elle est souvent très, très diplomate dans ses avis. Celui-là est remarquable, où tous les arguments d'Israël sont déboutés les uns après les autres. La légitime défense, enfin, le droit à l'occupation, etc. Mais ce n'est qu'un avis consultatif. Et les avis consultatifs, comme les recommandations, n'ont pas de portée juridique obligatoire. Voilà. Donc c'est vrai qu'Israël, sur le plan du droit, s'en sort bien, même si l'État viole sans arrêt le droit international et depuis la Première Guerre, puisque la résolution qui crée l'État d'Israël est très claire. Hein, il est hors de question que les citoyens israéliens puissent s'approprier des terres des citoyens palestiniens, et inversement, hein, c'est très clair. Donc la résolution a été violée immédiatement. Voilà. Donc on a des failles dans le droit international, même s'il est violé, qui permettent à Israël de s'en sortir assez facilement par rapport à ces questions-là. Hein, et il faut utiliser les bons termes et les bonnes institutions à un moment donné pour bien comprendre que quelque part, Il y a une volonté des États, c'est vrai, mais il y a aussi institutionnellement des limites qui font qu'on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire, parce que sinon tout le reste était parfaitement clair et parfaitement précis. Sur l'UNRWA, oui, c'est un mandat qui est renouvelé depuis 1949. Hein. Il vient encore d'être renouvelé jusqu'en 2017. Mais pas de raison que ça s'arrête hein, en l'état actuel des circonstances. Je n'ai pas les mêmes chiffres que vous, moi. Mais après, vous avez relativisé. Moi, j'ai 4,8 millions de réfugiés gérés par l'UNRWA. Mais vous l'avez dit après.
Oui, non, mais là, il y en a plus, inscrit, en fait. Ouais. Oui, oui. En réalité, il y en a 1,5 million dans les camps seulement, parce que maintenant, il y en a beaucoup qui sont en dehors des camps. Ouais. Mais inscrit, c'est 5 millions, oui, 5,6, pratiquement 5,7 aujourd'hui. Oui. Parce qu'en sachant qu'il y en a aussi qui n'ont pas pu se réinscrire, mais qui sont toujours considérés comme réfugiés, oui, parce que dans les pays, ça dépend des pays dans lesquels ils se trouvent, il y a des moments, il y a des administrations qui font en sorte aussi de les bloquer. Quoi. Ils se retrouvent aussi bloqués par ça.
Vous savez, des fois, l'ONU a des coups de génie. Par exemple, sur l'UNRWA, il avait été prévu que les réfugiés auraient le statut de réfugiés palestiniens et leurs descendants.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas dans le statut de réfugié de la Convention de 51 de Genève, gérée par le HCR. Les descendants n'ont pas droit au statut de réfugié. Donc c'est pour ça qu'on est passé de 700 000 en 1949 à 4,8 millions aujourd'hui, avec un vrai droit à ce maintien de statut de réfugié.
C'est pour ça que
sinon,
du coup,
ils auraient
sur la carte,
le redemander chaque fois.
C'est pour ça que sur la carte, les descendants figurent après. Mais par rapport à ce que vous disiez justement tout à l'heure, la commission de conciliation aux Nations Unies qui est créée au lendemain du vote de la résolution 194-3, en fait, cette commission, elle est chargée d'appliquer la résolution et surtout, elle va être chargée de transformer les accords d'armistice qui vont être signés quelques semaines après en accord de paix, était appelé le monstre à trois têtes. Il y avait un représentant américain, un représentant turc et un représentant français. Et donc, à l'ONU, on l'appelait le monstre à trois têtes, effectivement, pour montrer que ce n'était pas loin d'être consensuel. Et par contre, il y a des choses. La résolution 194-3 est votée. La commission de conciliation aux Nations Unies pour la Palestine est constituée quelques jours plus tard, avec l'objectif de créer une première conférence internationale qui était la conférence de Lausanne, et à laquelle d'ailleurs les Palestiniens ne sont pas invités. Et c'est pas grave, ils arriveront dans les couloirs par la fenêtre et ils seront plus nombreux que les États invités. Et parmi les questions qu'il y avait, je vous ai dit, il y a le droit au retour, il y a la question de Jérusalem, mais il y a la question aussi des comptes bancaires. Parce que quand l'État d'Israël est créé, les Israéliens ont gelé tous les comptes bancaires palestiniens. Les coffres et les comptes bancaires ont été saisis. Et donc ça faisait partie des dossiers que devait gérer l'ONU dans les recommandations. Les Israéliens, bien sûr, ne voulaient pas les régler. Et donc, il y a des pourparlers d'abord. Et puis, la question des droits à des compensations. Donc, il fallait estimer le territoire palestinien, les terres. Et donc il y a un travail en cours à l'ONU à ce moment-là. Et puis, il y a un Palestinien qui a la bonne idée. C'est qu'il attaque auprès d'un tribunal en Jordanie la banque Barclays. Parce que c'était une des principales banques. Et du coup, la Barclays se trouve bien embêté parce que ce sont ces comptes qui sont bloqués en Israël par les Israéliens, mais qui appartiennent à des Palestiniens. Et ça va faire jurisprudence. Parce que du coup, la Barclays va se retourner auprès des Israéliens en leur disant « Non, mais alors là, vous me mettez dans une situation difficile. Il est hors de question que nous, on paye et que vous, vous gardiez l'argent. » Donc ça va pas. Donc il y a un rapport de force qui s'établit. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, les comptes vont être débloqués.
Ah, il y a des petites
failles. Par le biais de cette faille. Bon, c'était juste.
Oh, oui, tout à fait. Tout à fait.
C'est un mutisme qui doit revenir, qui est abusif. Et comme un couteau qu'on me lance dans le cœur.
Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir une dernière fois notre conférencière et je vous remercie tous de votre présence. Ah oui, il y a des. Allez-y.
Je voudrais juste rappeler donc que les livres de Sandrine Mansour sont en vente derrière vous si vous êtes intéressé. Et je voudrais rappeler également les deux prochains événements qui sont organisés par le collectif, à savoir le 28 mars à partir de 11h à 14h, on fait un rassemblement à Châtellerault, place Winston-Churchill, pour rappeler qu'effectivement Gaza, on n'oublie pas. Et le 7 avril au TAP Cinéma, on fera une projection de film auquel d'ailleurs a participé Sandrine Mansour pour la partie historique, un film de Maryse Gargour sur la Palestine justement d'avant, la Palestine de l'occupation britannique. Donc, voilà, avec des interviews de gens.
En fait, c'est l'histoire de famille. Non, c'est pas du tout de Palestiniens. Ce sont que des familles françaises qui sont nées en Palestine et qui ont vécu en Palestine et qui témoignent. C'est un document que nous avons réalisé avec des archives complètement inédites. Et surtout, ça rappelle le rôle et la place que la France avait en Palestine, qui est souvent méconnue. Et donc, voilà, on a eu le prix d'or au festival du film de documentaire d'Al Jazeera au Qatar. C'est un film très poétique en même temps.